Chapitre 28. 2019. Alors, ça ne valait pas le coup? Je sais que Flo aime les musées, les expos, les sauteries un peu branchées. Être hôtesse de l'air quand on apprécie la culture, l'exotisme, des arts modernes aux arts premiers, aide à frimer. Elle observe les fresques murales et a l'air sincèrement épatée par l'imagination fantastique des peintres, la précision des portraits, la dureté des traits contrastant avec la naïveté des thèmes, la liberté, la famille, l'instruction, la révolution, les hommes-dieux, les femmes-soldats. Je tente de masquer mon émotion. J'ai l'impression que rien n'a changé. Je reconnais chaque tableau sur chaque pylône, sans doute parce que je les ai si souvent revus depuis sur Internet, laissant tourner sur mon écran des diaporamas des plus belles fresques. Au point de mélanger cette réalité virtuelle aux véritables images de ma mémoire. Les couleurs me paraissent plus vives que dans mes souvenirs. Les peintures murales sont parfaitement entretenues. Pour les touristes. Pourtant, en ce milieu d'après-midi, le Bariologan est désert. On entend simplement le flux continu de voitures passer au-dessus de nos deux têtes, sur l'interstate. Sans ces incroyables dessins, le quartier ressemblerait à un de ces coins où il est peu recommandé à deux femmes seules de s'aventurer. Isolé. Coupé du reste de la ville par une voie ferrée. Les pylônes offrent autant d'angles morts, les murs peints autant de cachettes. Un lieu de commerce idéal pour trafiquants en tout genre. Si, c'est incroyable, avoue Flo, tout en continuant de mitrailler les fresques à l'aide de son iPhone. Mais ça ne craint pas un peu ton quartier? Sans répondre, je lui fais signe de me suivre. Nous remontons l'interstate, à l'envers et en dessous. Les pylônes se succèdent. Pylône serpent, pylône arbre de vie, pylône aigle libérateur, pylône vierge Marie. Jusqu'à ce qu'enfin, je retrouve ma soldat des rats. Elle est toujours là. Carabine à la main, cartouche en bretelle, cheveux au vent. Elle veille sur mon destin. Mon cœur se bloque soudain. Je ne m'attendais à rien en venant ici. À rien d'autre qu'une plongée dans mes souvenirs. Et il m'attend là, devant moi. Le Chevy van Los Paramos est garé le long du pylône, sous la soldadera. Exactement comme cette nuit-là. Viens, fais-je à Flo. Elle semble de plus en plus méfiante, même si elle mitraille la soldadera autant que les autres œuvres. Je me rends compte que nous nous trouvons dans l'un des lieux les plus isolés du Chicano Park. Aucun trottoir, aucun chemin, aucun vis-à-vis. À l'écart des rares passages, Iliane ne l'avait pas garé là par hasard. Si les peintures murales ont été entretenues, ce n'est pas le cas du Chevy van. Il doit m'attendre ici depuis des années. Pneus crevés, rétro brisés, portières cabossées. Les dessins de mariachi et l'inscription « Los Paramos » sont toujours lisibles, mais attaqués de toutes parts par des taches de rouille. Je m'approche cherchant à comprendre. Qu'est-ce que ce fourgon peut bien faire ici? Après notre nuit, Iliane m'avait raccompagnée jusqu'à San Isidro pour que je récupère ma Dodge Challenger de location, puis devait retourner chercher Luis au Presidio Park dans l'Old Town et passer prendre Felipe et Ramon à Chula Vista. D'ailleurs, le camion appartenait au Los Paramos. Qui a pu revenir le garer là? Qui pouvait savoir que je viendrais ici, 20 ans plus tard? Parvenu devant le Chevy van, je constate l'étendue des dégâts. Après tout, ce bon vieux camion doit bien avoir plus de 25 ans aujourd'hui. Il n'est pas si mal conservé pour son âge. Je me hisse sur la pointe des pieds pour tenter de regarder à l'intérieur, à travers les vitres poussiéreuses.
Qu'est-ce que tu fabriques ? Panique Flo. Putain, Nati, réagis, ça pue la planque de dealer ici.
Je plisse les yeux. J'aperçois un bric-à-brac à l'intérieur. Je crois reconnaître le réchaud à gaz avec lequel Iliane m'a préparé le café.
Je respire plus fort. Je crois même reconnaître son odeur. Je frissonne. Ma peau, elle aussi. Merde, il y a du monde, Nati. Je me retourne d'un coup et découvre d'abord le SUV garé derrière le pylône le plus proche. Un Ford Edge gris, strictement identique à celui dont je me suis persuadée qu'il nous a suivis, de l'Old Town à la frontière mexicaine. Mon cœur bondit. Un piège? Foutre le camp? Pousser un cri? Ni Flo ni moi n'avons le temps de réagir. Deux mains se posent sur nos bouches, deux autres tordent nos bras dans nos dos, un pied frappe dans la porte du Chevy van pour l'ouvrir violemment. Deux corps se collent à nous, leur odeur nous enveloppe, suffisamment forte pour que je sente autant les relents de menthe poivrée de mon agresseur que celle de tabac froid de celui qui pousse Flo dans le fourgon. Il se contente de nous bâillonner avec un morceau d'adhésif et de nous lier les mains, puis nous jette sur le matelas. L'un, celui qui mâchonne un mégot de cigare et un mot robusto, a gardé son téléphone collé à l'oreille. L'autre, celui qui toutes les minutes sort une boîte d'Altoids de sa poche pour en sucer une pastille de peppermint, reste debout, derrière la porte fermée du fourgon, surveillant les alentours par la vitre. Flo, les yeux exorbités, ne cesse de fixer les couteaux rangés dans les étuis de cuir que nos agresseurs portent au ceinturon. Mes yeux papillonnent davantage vers les étagères renversées, les guitares fendues aux cordes cassées, la pile de vieux sombreros dont la paille semble avoir été rongée par une armée de rats, le drap troué qui pend tel une peau morte de fantôme, ce matelas sur lequel nous sommes assises, éventré sur toute sa longueur, les oreillers crevés. J'ai dû rêver trop fort. Te amo robusto raccroche enfin. Il nous dévisage tour à tour, semblant obéir aux instructions précises de son interlocuteur. Hésite, s'approche de moi, lèvres serrées sur son mégot, visage fermé, exprimant l'air dégoûté d'un éboueur devant un tas de déchets à évacuer. Sans que j'aie le temps de réagir, il empoigne le col de mon chemisier et l'arrache, le déchirant jusqu'à ma poitrine. Il n'a pourtant pas un regard pour mon soutien-gorge. Il se contente de fixer l'hirondelle tatouée sur mon épaule. Ça lui soutire un sourire, du moins un rictus sur un coin de bouche, qu'il parvient à exprimer sans cesser de mordiller son mégot à l'opposé. Flo grelotte autant que si elle était enfermée dans un fourgon frigorifique. Je sais ce qu'elle pense. Nous sommes tombés sur des dealers. Nous les avons surpris dans leur petit trafic. Ils vont nous tuer. Et sans doute, avant, nous violer. Aurais-je le temps de t'avouer la vérité, Flo ? Ce n'est pas nous qui les avons surpris. Ce sont eux qui nous ont suivis. Qui m'ont suivi, d'ailleurs. Tu n'as rien à voir dans cette histoire, ma pauvre Flo. C'est moi qu'ils cherchent. L'hirondelle. Miss Swallow. Pourquoi ? Pas pour me faire parler, ils nous ont bâillonnés. Pour me faire taire ?
C'est bien elle, confirme Robusto. Mais on doit s'occuper des deux.
Altoïde suce un nouveau bonbon.
Ça double tarif, j'espère.
Robusto hausse les épaules.
T'as le droit de t'amuser avec elle avant, si t'estimes que t'es pas assez bien payé.
Altoïde manque d'en avaler sa pastille.
Vrai? Je me taperais bien la grosse blonde qui nous mate le manche.
Il laisse tout de même traîner, à regret, ses yeux sur mes seins dénudés à travers mon chemisier déchiré, puis se tourne vers Flo, en jouant ostensiblement avec l'étui de son couteau. Elle a le cran de lui jeter un regard de défi.
Je crois entendre toutes les insultes qu'elle leur cracherait au visage si elles osaient la laisser parler.
Je réalise que le pire pour elle sera de mourir muette. Altoïde esquisse une danse étrange. Je comprends qu'il se trémousse pour baisser son pantalon boudiné dans ses bourrelets. Dans sa poche, le bruit des pastilles qui se cognent dans la boîte de fer ajoute à la scène un ultime détail morbide. Je mets un moment à comprendre qu'un autre bruit, discret, répond à celui des bonbons mentholés. Quelqu'un frappe au carreau. L'instant d'après, un visage apparaît,
Le nez écrasé, les yeux grands ouverts, essayant d'apercevoir quelque chose à travers la vitre. Robusto a le réflexe de se positionner entre nous et la portière, mais j'ai le temps de reconnaître le visage. Le dernier auquel je m'attendais. Le commandant Jean-Max Balin. Te amo Robusto sort du chez Vivane en prenant le soin d'ouvrir au minimum la porte, puis de la refermer derrière lui. Je n'entends que des bribes de conversation, principalement la voix puissante de Robusto.
« Qu'est-ce que vous voulez? C'est un espace privé. Non, je n'ai vu personne. Tirez-vous !»
Ça ne dure qu'une trentaine de secondes. Quand Robusto pénètre à nouveau dans le fourgon, je m'aperçois que son couteau est sorti de son étui. Je peine à déglutir. Un filet de salive m'asphyxie. Au moment où il est apparu à la vitre, j'ai cru que Jean-Max était leur complice, qu'il était celui qui leur avait ordonné de nous tuer. Au regard furieux de Robusto, je déduis qu'il n'a jamais vu le commandant Balin, mais qu'il l'a suffisamment effrayé pour qu'il déguerpisse. Qu'est-ce que Jean-Max fichait là? Robusto se penche pour attraper mon sac à main, le vide sur le matelas, puis récupère mon téléphone. Je devine qu'il vérifie mes appels et messages récents. Je ne me suis pas servi de mon portable depuis que j'ai appelé Olivier et Margot ce matin. Robusto le constate, laisse tomber mon appareil, puis se tourne vers Flo. Elle porte toujours son téléphone dans la poche avant de son pantalon. Robusto en repère la forme rectangle et, d'un geste précis, lacère le tissu. La cuisse de Flo s'imbibe de sang sur toute la coupure. Elle ne peut retenir un mouvement de recul et un cri d'horreur qui meurt étouffé. La poche pend. Le téléphone glisse le long de sa cuisse. Robusto s'en saisit, puis, quelques instants plus tard, oriente l'écran vers nous. Je comprends. Un texto, adressé à Jean-Max. Juste une photo. Celle de la soldadera. Flo a prévenu Jean-Max. Je n'ai pas le temps de réfléchir à la façon dont Flo, ligoté et bâillonné, est parvenu à réaliser ce tour de passe-passe. Ni comment le commandant a pu arriver aussi rapidement sur place. Tout cela n'a servi à rien. Il ne nous a pas vus. Il ignore que nous sommes là. Il a simplement cru déranger un voyou du quartier et il a détalé. La cuisse de Flo est inondée de sang. Elle tremble, mais s'efforce de maîtriser sa respiration, de garder le contrôle de son esprit, même si ses yeux trahissent son épouvante. L'entaille écarlate n'a pas l'air de refroidir les ardeurs d'Altoïde. Il a fait glisser son pantalon jusque sur ses chevilles, dévoilant des jambes maigres et un slip jaune à l'effigie du Club America. Robusto le toise avec mépris.
On n'a plus le temps. Les flics risquent de rappliquer. On bute les señoritas et on se casse.
Altoïde ne cherche pas à protester. Le tic-tac des pastilles qui accompagnent les gesticulations de son pantalon qui remonte est la dernière musique que j'entendrai. Je vais mourir ici, sur ce matelas où, pour la première fois, j'ai compris ce qu'être vivante signifiait. Ils vont commencer par moi. C'est moi qu'ils cherchent. C'est moi qu'ils veulent éliminer. Si je me bats, si je résiste, peut-être pourrais-je gagner du temps. Pas pour survivre, mais pour laisser une chance à Flo. Si cela dure trop, peut-être qu'ils fuiront, l'épargneront. À travers la vitre de la portière, je fixe le haut du pylône et prie la soldadera de me confier sa force. Elle ne m'accorde pas un regard, indifférente, absente, les yeux tournés vers une lointaine révolution. Tant pis. Je prends un appui mou sur mes pieds. Je veux croire qu'il me suffira tout de même pour bondir quand le tueur s'approchera. Il ne s'approche pas. Il fait un pas de côté et c'est vers Flo qu'il se dirige. Elle n'esquisse pas le moindre geste. Sa jambe semble paralysée. Chaque trait de son visage traduit sa terreur. Robusto s'avance. Son geste est fluide, souple, sans sadisme ni émotion. Flo tente de reculer, rampe sur le dos, maladroitement, en poussant d'une seule jambe. Elle gagne 30 centimètres au prix d'un effort qui dévore ce qu'il lui reste d'énergie. Ses épaules se plaquent au métal de la carrosserie. Robusto n'a qu'à exécuter un demi-pas de plus. Je bondis, désespéré, De toutes mes forces, décuplé. Altoïd me repousse avant que mes pieds aient décollé. Son pantalon retombe alors que ses bras me collent au matelas. Je me débats, je ne renonce pas, même si mon agresseur est plus fort que moi. Je tente de le mordre à travers mon bâillon. Ma tête se cogne à la paroi du fourgon. Ce salaud ne cède pas. Mes pensées se bousculent. Je suis désolée, Flo. Altoïd appuie de tout son poids pour m'immobiliser, m'interdisant de bouger. Flo, je suis si désolée. Même si j'ignore quelle faute j'ai commise, peut-être l'ai-je commise ici, il y a 20 ans, sur ce matelas immaculé que ton sang a rougi. Je bats des pieds, cherchant à atteindre l'entrejambe de cet enfoiré. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. À 2 mètres de moi, Robusto se penche. La lame au bout de son poing semble suspendue, à hauteur du cou de ma meilleure amie. Je lutte encore, mais je n'arrive plus à garder les yeux ouverts. Avant de les fermer, la dernière chose que je vois est le couteau s'enfoncer dans la gorge de Flo.